à l'écoute de VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, édition du 5 avril 2022. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Michel Joseph.
Nous commençons par les titres.
La France s'inquiète de possibles exactions de militaires maliens accompagnés de mercenaires russes, selon elle.
Un important groupe rebelle se retire du pré-dialogue à Doha, au Qatar, entre le gouvernement tchadien et les groupes politico-militaires.
En RDC, libération de 3 membres d'une délégation de négociateurs congolais, otages d'un groupe armé depuis un mois et demi.
Washington et Londres réclament la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU suite aux images de Boutcha en Ukraine.
La juge africaine-américaine Ketanji Brown Jackson se rapproche de la Cour suprême après un vote de procédure hier au Sénat.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
La France s'est déclarée gravement préoccupée lundi par de possibles exactions commises au Mali par des soldats maliens accompagnés de présumés mercenaires du groupe privé russe Wagner. Paris rejoint ainsi la vague de condamnation internationale. Le point avec Nani Talani.
L'armée malienne a affirmé vendredi soir avoir tué 203 combattants de groupes armés terroristes lors d'une opération dans le centre du Mali menée du 23 au 31 mars. La France parle d'exactions massives dans le village de Moura par des éléments des forces armées maliennes accompagnés de mercenaires russes de Wagner et qui auraient causé la mort à des centaines de civils, a indiqué un communiqué du Quai d'Orsay. Elle appelle à l'ouverture rapide d'enquêtes pour établir les responsabilités et traduire en justice leurs auteurs. La diplomatie française souligne que la lutte contre les groupes terroristes opérant au Sahel ne peut en aucun cas justifier des violations des droits de l'homme qui ne font que renforcer ces groupes. À Bruxelles, Josep Borrell, représentant de l'Union européenne, juge qu'il est essentiel que la MINUSMA puisse avoir accès au lieu des événements afin d'épauler les autorités de transition dans leur enquête. La lumière doit être faite sur les conditions des opérations antiterroristes ces dernières semaines, a renchéri le président du Conseil européen, Charles Michel. Idem pour Washington, qui a jugé dimanche extrêmement dérangeantes ces allégations et demande l'ouverture d'une enquête crédible.
Au Mali même, les autorités ont convoqué Oumar Mariko après que cette personnalité de l'opposition a critiqué la junte au pouvoir et suggéré que l'armée était en train d'assassiner des gens. Il doit se présenter ce matin à la gendarmerie, c'est ce qu'a appris l'AFP auprès de ses proches. L'agence dit avoir consulté une vidéo dans laquelle M. Mariko aurait laissé entendre lors d'une réunion publique que l'armée était venue assassiner des gens à Moura, dans le centre du pays. Son parti se plaint de ce qu'il a qualifié d'intimidation et de menace du pouvoir, et aussi de dérive autocratique du régime de la transition.
Le pré-dialogue entre le gouvernement tchadien et les groupes politico-militaires piétine au Qatar. Un important groupe rebelle a annoncé hier lundi son retrait des négociations de paix. Abdurrahman Dia.
Le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République, actif dans le sud de la Libye et le nord du Tchad, a décidé de se retirer du pré-dialogue, évoquant dans un communiqué ce qu'il qualifie d'agenda caché de la junte militaire. Nous n'avons pas à nous prononcer sur cette décision, a réagi un membre de la délégation tchadienne au Qatar, sous couvert de l'anonymat. Ce pré-dialogue de Doha, promis depuis de longs mois et initialement prévu le 27 février, a été repoussé à la dernière minute au 13 mars. L'un des buts affichés du fils du défunt chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui a été autoproclamé le 20 avril 2021 président, est d'amener les groupes armés à la table d'un dialogue national dit inclusif prévu le 10 mai avec les oppositions politiques et armées. Ces groupes armés ont harcelé le feu maréchal Idriss Déby pendant 30 ans durant lesquels il a régné d'une main de fer sur son pays.
En Libye, on apprend de sources sécuritaires que des affrontements entre deux groupes armés ont éclaté lundi soir dans la capitale Tripoli sur fond de tensions politiques exacerbées, faisant 2 morts et 5 blessés et causant des dégâts matériels. On n'a pas précisé l'identité des groupes impliqués. Le pays se retrouve depuis début mars avec 2 gouvernements rivaux comme il l'a été entre 2014 et 2021, alors en pleine guerre civile.
Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, 3 membres d'une délégation prise en otage depuis 1 mois et demi ont été libérés hier. Ils étaient venus négocier la paix avec un groupe armé en Ituri. 4 sont encore retenus. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Pichumbo Dina Iribi, porte-parole de la Task Force pour la paix, la réconciliation et la reconstruction de l'Ituri, a annoncé hier la libération de Germain Katanga, ancien chef de guerre, Janvier Ayendou Bin Ekwale, président de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri et le chauffeur du groupe. Un des accompagnateurs, le professeur Jean-Baptiste Deschouvi, a déjà été libéré le 21 mars. Un groupe de 8 personnes a été envoyé par le président Félix Tshisekedi pour négocier un cessez-le-feu. Ces négociateurs ont été pris en otage par les miliciens Codeco qui reprochaient à l'armée d'avoir bombardé la zone durant leur réunion. Les membres de la task force qui demeurent en otage sont les anciens chefs de guerre Thomas Lubanga et Floribert Ndjabou et 2 colonels de l'armée. Les miliciens Codeco qui disent défendre la communauté l'hindoue revendiquent la libération des prisonniers Codeco et des membres de la communauté l'hindoue qui, selon eux, ont été arrêtés arbitrairement, la cessation des opérations militaires et la levée de l'état de siège en vigueur en Ituri et dans le Nord Kivu.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis et le Royaume-Uni ont réclamé hier la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en réponse aux images de Boutcha, près de Kiev, où ont été retrouvés de nombreux corps sans vie après le départ des forces russes. Précision de John Linden.
Le président américain Joe Biden a une nouvelle fois qualifié lundi Vladimir Poutine de criminel de guerre et il s'est prononcé en faveur de l'organisation d'un procès pour crimes de guerre commis en Ukraine. Vous avez vu ce qui s'est passé à Boutcha, a déclaré à la presse le président américain. Il en est responsable, c'est un criminel de guerre. Nous ne pouvons pas laisser un État membre saper tous les principes qui nous tiennent à cœur. Participer au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, a tweeté Linda Thomas Greenfield, représentante américaine à l'ONU. Les États-Unis vont travailler à la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, a ajouté la diplomate en visite en Roumanie. Une telle suspension doit être décidée par l'Assemblée générale lors d'un vote à la majorité des 2/3 des 193 États membres de l'ONU. Le Royaume-Uni a apporté son soutien à la démarche américaine. Les autorités ukrainiennes ont accusé les forces russes d'avoir tué de nombreux civils à Boutcha, mais Moscou a démenti toute responsabilité.
Selon la procureure générale d'Ukraine, les corps sans vie de 410 civils ont été retrouvés dans les territoires de la région de Kiev, récemment repris aux troupes russes. Son bureau a en outre fait état lundi soir des corps de 5 hommes et avec les mains liées. Liés, retrouvés dans la cave d'un sanatorium pour enfants à Boutcha.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a quant à lui estimé lundi en visitant Boutcha que des crimes de guerre qui seront reconnus comme un génocide y ont été commis. Il doit s'exprimer par liaison vidéo ce mardi lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU dominée par les récents bombardements à Boutcha selon la mission diplomatique britannique.
La France et l'Allemagne ont annoncé lundi l'expulsion massive de diplomates russes de leur pays après les événements de Boutcha. Alors que les États-Unis et leurs alliés veulent annoncer cette semaine de nouvelles sanctions économiques contre la Russie, l'Ukraine recevra aussi plus d'assistance militaire, a annoncé hier le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan.
Un couvre-feu a été instauré aujourd'hui à Lima, la capitale du Pérou, et la ville portuaire voisine de Callao, après des manifestations violentes des transporteurs contre la hausse des prix du carburant, a annoncé le président de gauche Pedro Castillo.
La juge Ketanji Brown Jackson a franchi hier une autre étape vers son accession à la Cour suprême des États-Unis, où elle sera la première femme noire à siéger.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibault.
En Côte d'Ivoire, le prix de l'essence super est passé de 635 francs CFA le litre à 695 francs CFA, soit une hausse de 60 francs CFA par litre. La Côte d'Ivoire dépend du pétrole brut international à 95%, c'est justifié Thomas Camara, ministre ivoirien du pétrole, en marge d'une rencontre avec les responsables des associations de consommateurs. Selon lui, la hausse du baril de pétrole à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine se répercute à cause de cette dépendance. Au Tchad, une école va former les jeunes pour accompagner le développement du pays dans le cadre de la coopération sino-tchadienne. L'ambassade de Chine au Tchad a dévoilé sur sa page Facebook les travaux de construction de cette école qui sera dotée, en plus des salles de classe, de laboratoires, de dortoirs et d'une cantine notamment. Les fabricants de plastique vont devoir se désintoxiquer rapidement du pétrole fossile. Les mesures déjà décidées pour freiner la consommation étant loin de suffire pour tenir les objectifs climatiques de Paris et Glasgow, admet l'industrie européenne sous pression du rapport des experts onusiens du climat publié hier.
Merci Claire. À présent, les sports avec Nani Talani.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. La FIFA a dévoilé le montant des primes que recevront les équipes qui participeront au Mondial 2022 au Qatar. Le vainqueur de la compétition recevra 24 926 366 000 francs CFA. Le finaliste, soit le deuxième, aura 17 710 839 000 francs CFA. L'équipe qui sera en troisième position recevra 15 742 968 000 francs CFA. La quatrième place vaudra 14 431 054 000 francs CFA. Les formations qui seront entre la cinquième et la huitième place recevront chacune 9 839 355 000 francs CFA. Celles de la neuvième à la seizième place auront chacune 7 215 527 000 francs CFA. Enfin, les équipes qui seront de la 17e à la 32e place recevront chacune 5 240 millions de francs CFA. Les 12 joueurs nommés pour le prix Marc-Vivien Fouet 2022 sont connus. Le Maroc est le pays le plus représenté avec 4 joueurs. Younis Abdelhamid du stade de Reims, Naïef Aguer du stade Rennais, Sofiane Boufal d'Angers et Achraf Hakimi du PSG. Hormis les Marocains, il y a le Guinéen Mohamed Bayo de Clermont, l'Ivoirien Sékou Fofana du RC Lens, le Sénégalais Idrissa Ganagay du PSG, le Tunisien Wabi Kazri de Saint-Étienne, le Gabonais Mario Lemina de l'EGC Nice, le Nigérian Moses Simon du FC Nantes, le Malien Amari Traoré du Stade Rennais et enfin le Camerounais Karl Toko Ekambi de l'Olympique Lyonnais. Le vainqueur de cette édition sera révélé le lundi 16 mai. Parmi les nommés, Boufal et Toko Ekambi ont déjà remporté le prix Marc-Vivien Fouet. Gaël Kakuta, qui a remporté le trophée l'année dernière, ne figure pas dans la liste des 12 nommés. Les joueurs de l'US Monastir qui réclament leur salaire ont suspendu leur mouvement de grève, rapporte Sport News Africa. La direction du club a trouvé les solutions face aux plaintes des employés. Le président du club, Ahmed Belli, a promis de leur payer les salaires dans les prochains jours. Pour finir, les Lions de l'Atlas au Maroc ont commencé ce lundi un stage de préparation de 10 jours dans la région du Rabat pour se préparer à la prochaine CAN féminine qui se tiendra du 20 au 23 juillet au Maroc. Pour cette étape, la sélection marocaine, conduite par le coach Reynald Pedros, aura 2 rencontres amicales contre la Gambie le 7 avril et contre le Ghana le 12 avril, selon la Fédération royale marocaine de football.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, les forces armées ont déclaré samedi avoir tué 203 terroristes lors d'une opération dans le centre du pays, plus précisément dans le village de Moura. Mais certains témoignages contredisent le bilan du gouvernement. Véa Bambara a pu joindre un témoin oculaire des événements, un habitant de Moura. Au micro de Bagasikoura, il raconte ce qui s'est passé dans son village.
Alors, que vraiment on en a vers 11h00 où il y a eu un barreau d'amener depuis où j'ai gagné. Il est ici, ça va de nana.
D'abord, trois hélicoptères sont arrivés à 11h le dimanche. À 13h, deux autres avions sont arrivés. C'était le jour du marché de Moura. Les tirs ont commencé de 11h à 15h ou 16h. De dimanche à jeudi, ils ont tué plus de 200 personnes. Ils les ont jetées dans une fosse commune et ont mis le feu. Vendredi, on a ramassé 5 corps en brousse. En plus des 200 personnes que l'armée a enterrées, nous avons pu compter
377
corps. Alors, l'armée affirme avoir tué des djihadistes. Qu'est-ce que vous en dites?
Bien sûr, on ne peut pas nier qu'ils ont tué des djihadistes. Ils ont tué des djihadistes. Mais sur 10 personnes tuées, seule une personne était djihadiste.
Les
plus nombreux parmi les morts sont des civils tués. Jusqu'à présent, on continue de ramasser des corps. Avant-hier, on a ramassé 5 corps dans la brousse. Hier, on a ramassé le corps d'une femme en brousse. On ne sait pas combien on va ramasser aujourd'hui.
Et est-ce que vous savez ceux qui ont mené cette opération? S'agissait-il seulement des soldats de l'armée malienne ou y avait-il d'autres personnes à leur côté?
Les deux premiers hélicoptères sont descendus vers ma maison. Un a atterri dans ma cour intérieure. C'était tous des blancs. Il n'y avait aucun noir parmi eux. Ils sont montés sur le toit de ma maison, ils étaient tous des blancs. Ils ont fermé les portes de ma cour et ils ont tiré pendant 1 à 2 heures. Ensuite, ils sont descendus. Ils ont offert des biscuits et du jus aux petits enfants de 1, 2 ou 3 ans qui étaient chez moi. Le dimanche, de 11h jusqu'à 13h, moins quelques minutes, d'autres avions sont arrivés. Cette fois-ci, il n'y avait aucun blanc parmi eux.
Le témoignage d'un habitant de Moura, au Mali, recueilli hier lundi par Bagasikoura.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Togo, à cause du coronavirus, cela ferait presque 2 ans déjà que l'accès aux détenus des prisons civiles a été interdit aux familles, aux avocats et aux ONG qui leur apportent des aides. À la faveur de l'allègement récent des mesures restrictives des associations de défense des droits humains, partent en croisade pour qu'ils soient aussi étendus aux centres de détention afin que les prisonniers puissent de nouveau avoir le droit de visite. Reportage de notre correspondant à Lomé, Kossi Wosu.
Assise au milieu de sa cour dans le quartier Adetikope Zogbeji, à l'extrême nord de la capitale, Mariam n'en peut plus de cette attente de visite à son frère, détenu à la prison civile de Lomé. Le pire pour elle, c'est de n'avoir aucune information sur les conditions de vie de son frère.
Depuis l'arrivée de la pandémie du coronavirus et qu'ils ont interdit les visites dans les prisons, je n'ai plus revu mon frère. Cela fait 2 ans que nous sommes sans nouvelles et cela nous inquiète. Nous essayons de lui apporter à manger, mais ce sont les agents pénitentiaires qui reçoivent la nourriture. Est-ce qu'on la lui donne? Je n'en sais rien. On n'en peut plus. Si on peut nous permettre de reprendre les visites, j'en serais très heureuse.
Tout comme Mariam, des associations de défense des droits humains montent au créneau, d'autant que toutes les restrictions dues à la COVID-19 se sont allégées. Les lieux de culte sont ouverts, les activités sportives et culturelles ont repris, de même que les grandes réunions internationales. Elles interpellent le gouvernement d'élargir les prisonniers à la faveur des dernières mesures d'allègement afin que les activités reprennent dans les centres de détention du pays, notamment les visites aux détenus. Kao Acholi est le président de l'association des victimes de la torture au Togo, ASVITO.
Vous savez, pour avoir été moi-même prisonnier, les visites sont d'une importance très capitale et les visites apportent beaucoup de réconfort aux détenus. Et il est vraiment important que les visites reprennent.
Les conséquences néfastes liées à l'absence des visites aux détenus durant cette longue période de 24 mois sont diverses et variées. Marcus Dablaka, membre du collectif des associations de lutte contre la torture CASIT Togo.
Les psychologues que nous avions rencontrés, par exemple à la prison civile de Lomé, nous ont dit clairement qu'il y a le taux de violence qui a augmenté. Il y a des détenus qui ont développé des comportements anodins et les gens sont devenus plus tristes et frustrés. C'est le cas d'un monsieur qui est traumatisé et qui a été admis au centre des personnes en démence à Adébévi. Donc la visite est très importante dans la vie d'une personne en détention. C'est pourquoi nous luttons pour le rétablissement des visites.
Il faut donc parer au plus pressé. Selon le CASIT, depuis le mois d'août 2021, une lettre ouverte dans ce sens a été envoyée au président de la République qui a instruit les ministres concernés d'agir en conséquence. Il est peut-être temps que ces instructions soient traduites dans les faits. Kossi Wusu Lomé pour VOA Afrique.
Au Nigeria, les responsables des pays riverains du Golfe de Guinée sont réunis en symposium à Abuja, la capitale fédérale. L'objectif est de renforcer la lutte contre la piraterie maritime qui menace cet espace riche en hydrocarbures et en ressources naturelles. Notre correspondant Gilbert Tamba a assisté à l'ouverture des travaux.
L'insécurité maritime est l'une des menaces les plus persistantes à la sécurité et à la prospérité dans le golfe de Guinée. Le symposium d'Abuja regroupe les représentants des 12 pays côtiers de la CEDEAO, comme l'explique Abdourahmane Dieng, chef de la division sécurité régionale et responsable de la sécurité maritime à la commission de la CEDEAO.
En fait, nous avons reçu de la part de l'Union européenne un financement devant nous permettre de doter les 12 États côtiers de la CEDEAO d'embarcations leur permettant justement donc à la fois d'intervenir dans le jeu territorial, mais également de pouvoir justement donc utiliser des matériels médico-légaux dans le cadre justement donc d'investigation de la force publique. C'est dans ce cadre que nous sommes aujourd'hui réunis.
Le golfe de Guinée est devenu une zone à haut risque. Les actes de piraterie dans cette région ont maintenant dépassé ceux de la Corne de l'Afrique. La livraison d'équipements médico-légaux avec un budget est en termes financiers la composante la plus importante du programme SWIMS. Le chef du projet Alex Klein.
Nous avions déjà avancé avec le projet, nous avions réalisé beaucoup de travail, le renforcement des lois, la formation et maintenant nous sommes dans la phase de remise de matériel. L'insécurité maritime est une menace endémique dans toute la région. Beaucoup d'attention a toujours été accordée à la piraterie. Je suis satisfait de vous annoncer qu'il y a une réduction dans ce cadre. Les attaques de la piraterie ont rapidement diminué.
Le projet appui à la sécurité maritime intégrée de l'Afrique de l'Ouest, ou SWIMS, vise aussi à engager la société civile à jouer son rôle dans la mise en œuvre de l'architecture de sûreté maritime de la CEDEAO. Le contre-amiral Amara Kone de la Côte d'Ivoire évoque la menace dans la région.
Les préoccupations sont bien connues. Hein. C'est la montée en puissance des activités illicites en mer, telles que les attaques, la piraterie, la pêche IEN, qui est la pêche illicite, et aussi toutes sortes de trafics illégaux, le trafic d'armes, le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains et autres menaces.
Le symposium d'Abuja marque une autre étape pour faire avancer le projet SWIMS et sa mise en application. Une fois achevé, il va renforcer considérablement la capacité des bénéficiaires à faire respecter l'état des droits dans leurs eaux territoriales et à cimenter les relations de sécurité entre la CEDEAO et l'Union européenne. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, c'était le samedi 2 avril. En Côte d'Ivoire, ce trouble du neurodéveloppement est encore mal diagnostiqué et bien trop souvent mal perçu dans la société. Mais depuis quelques années, un centre à Abidjan propose à des enfants vulnérables une prise en charge adaptée. La danse semble être une thérapie qui fait ses preuves, nous dit dans ce reportage dans la capitale économique ivoirienne, Yacine Yiyov.
Au centre d'action médico-psychosociale de l'enfant, les journées ne commencent pas vraiment comme dans une école classique. Ici, la semaine démarre dans la bonne humeur par un apprentissage de chorégraphie. Âgés de 3 à 22 ans, les enfants inscrits dans ce centre souffrent d'autisme, de déficience intellectuelle ou de trisomie 21. Mais face au rythme et à leur professeur, Mathieu Coadio, tous sont égaux et ont envie d'apprendre. Ce professionnel est aujourd'hui l'un des seuls danseurs thérapeutes du pays. À raison de 2 séances par semaine, il permet à ces enfants vulnérables, généralement mal considérés dans la société ivoirienne, d'accepter, le temps d'une danse, leur handicap.
La danse thérapie est un bain sonore, rythmique et des ondes, une transmission d'ondes positives parce que ce travail permet aux enfants d'être équilibrés et on permet à ces enfants-là d'être valorisés parce qu'on leur dit qu'il y a de la place pour eux. La danse n'est pas faite que pour des personnes dites autonomes ou dites en bonne santé, elle est faite pour toutes les personnes.
La danse permet à ces enfants de prendre la pleine possession de leur corps, de leur mouvement. Ensemble, ils créent du lien social, eux qui trop souvent sont marginalisés et se retrouvent seuls. Et tant pis si la synchronisation n'est pas au rendez-vous, l'essentiel est ailleurs.
En plus, en danse thérapie, nous ne mettons pas l'accent sur la technique. L'objectif, c'est le lien social. L'objectif, c'est le bien-être. L'objectif, c'est la valorisation de ces personnes. L'objectif, c'est la santé. Et donc, comment à partir de cette pratique chorégraphique traditionnelle, par exemple, on peut aider un enfant à développer une motricité fine, à développer une motricité globale, à faire des activités comme les autres.
Dans ce centre de prise en charge pour enfants à besoins particuliers, on évalue et diagnostique dans un premier temps les troubles dont souffre l'enfant avant de lui proposer un suivi individualisé. Une méthode inédite en Côte d'Ivoire où les structures pour enfants en situation de handicap sont quasi inexistantes. Près de 90 enfants sont inscrits dans ce centre qui ne reçoit aucune aide ou presque de l'État et survit grâce à des dons de mécènes et aux frais d'inscription. Une mission aux allures de sacerdoce pour la directrice Miyala Touré Kifolo.
L'objectif du centre, c'est d'abord l'autonomie. Parce que quand ils arrivent ici, vous avez vu la classe des petits, le niveau zéro, ce sont des enfants qui ne sont pas autonomes. Alors nous leur apprenons l'autonomie, les habiletés sociales. Bonjour, merci, au revoir, je veux, donne. En tout cas, les bases même de l'autonomie. Quand on voit que l'enfant a franchi ces bases-là et que l'enfant est propre, on va voir sa capacité de compréhension, sa capacité d'agir, sa capacité d'interaction sociale avec l'autre, d'interaction interpersonnelle avec l'autre. En fonction de ça, maintenant, on va dire, bon, on va essayer de faire la toute petite section, ou bien la petite section, ou la moyenne section, ou le préscolaire, on va dire comme ça.
Un accompagnement adapté à l'enfant qui fait le bonheur des parents, souvent démunis dans ces situations. La méthode plaît aux enfants autant qu'aux parents. Les demandes d'inscription affluent et la directrice étudie un projet de délocalisation du centre actuel vers un site de 1000 m² et la construction à moyen terme d'un second centre, toujours pour danser, apprendre et s'autonomiser. Yacine Sio pour VOA Afrique, Abidjan.
C'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Segulia et de Michel Joseph, qui était également à la mise en onde. Kelvin Fowler était à la console. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.